Le sujet qui va nous occuper maintenant, à la demande de mes collègues de l'UFR-HSS également, c'est l'ingénierie pédagogique avec un point d'interrogation. Donc, est-ce que ça évoque quelque chose parmi vous? Est-ce que le fait qu'il y ait un point d'interrogation vous a fait poser des questions? Est-ce que vous avez regardé avant ce que c'était que cette ingénierie pédagogique? Ils connaissent le thème depuis... Non. Est-ce que quelqu'un veut répondre? Qui voit à peu près de quoi on va parler pendant 2 heures, vu que ça va occuper 2 heures de votre temps? Est-ce que vous voyez un peu de quoi on va parler? Personne? Du tout? Alors, Bon, là, c'est la première approche. Je vais dire que je n'ai pas de réponse, c'est pas grave. Je vais essayer de vous solliciter par moments. Je vais être intéressé par vos retours. Je vais défiler une présentation. Cette présentation-là, n'hésitez pas à un moment à... Voilà, manifestez-vous, levez la main. Quand je vais voir plusieurs mains se lever, on pourra faire un focus plus particulier sur une des diapos que vous allez voir. Mon diaporama, chaque slide n'a pas forcément beaucoup de contenu dedans. Par contre, je peux aller plus loin dans le contenu en fonction de votre demande. Donc, n'hésitez pas à un moment à le signaler. Si je vois beaucoup de mains se lever, voilà, j'insisterai sur un sujet. Bien, donc on va commencer. Alors, je vais vous présenter un peu mon parcours. Voilà, je suis rattaché à l'UFR-HSS. J'étais il y a 20 ans ici dans ce même amphi avec des sujets de physique nucléaire et de chimie structurale pour un diplôme qui n'était pas encore découpé en licence et master, mais qui était un diplôme d'études universitaires générales en sciences physiques. Vous voyez comme quoi... mon parcours, ça mène à tout, la formation, et ce sera un peu le fil conducteur. Vous allez voir que ce que je vous présente, je suis un peu un objet qui peut vous intéresser et qui va peut-être vous arriver à vous également. Après, j'ai passé pas mal de temps en fait, à enseigner dans un centre de formation d'apprentis du bâtiment, donc, où j'ai été de plus en plus, à partir des années 2000, en charge de, justement, amener la transformation numérique qui se passe dans le bâtiment à former et à faire en sorte que ce soit intégré dans les enseignements des formations du bâtiment. Pour être un peu plus à l'aise pour justement amener mes collègues à cette transformation numérique, j'ai décidé il y a 3 ans de passer un master d'ingénierie pédagogique et multimédia qui est à Lille, de l'Université de Lille, et qui est proposé, on en discutera si vous voulez un moment sur ces modalités-là, c'est un master qui est proposé en présentiel, voilà un peu le cursus que vous suivez vous actuellement. Il est proposé en hybride, qui va mêler un peu de formation présentielle et des moments sur une plateforme. Et le parcours que j'ai choisi, moi, c'était un parcours entièrement à distance. En fait, j'ai fait un master à Lille et je ne suis jamais allé à Lille, je suis toujours resté à Caen. Donc je pourrais entrer aussi, si ça vous intéresse, ce parcours-là et ce que ça m'a apporté. Et puis pour concrétiser ce master, j'ai fait un stage de fin d'études au CEMU, et une fois au CEMU, je suis resté dans cette structure, donc dans ce centre d'enseignement multimédia universitaire, qui est un service commun de l'université, qui a plusieurs missions. Je vais y revenir par la suite. Et j'ai été plus particulièrement rattaché au pilotage du projet EcritPlus. On en parlera encore un petit peu après. Pilotage d'un projet national sur 10 ans. Donc là, ça fait un an et demi qu'il est lancé, avec 16 autres universités, des consortiums, des GIP, des groupements d'intérêt public. Que dire de plus sur ce projet-là? Donc c'est un projet qui vise à évaluer, à former et à certifier des compétences en écrit en français. Donc voilà. Je vous en reparlerai un petit peu plus par la suite. Et puis, vous voyez, il y a une zone blanche à côté. Donc là, pour l'instant, sur mon curseur, on va dire depuis l'université que vous connaissez, pour l'instant, je suis sur ce projet-là, sur 10 ans, et puis je ne sais pas encore quel projet je piloterai la prochaine fois. Vous verrez que l'ingénierie pédagogique revient assez souvent, et c'est un peu le fil que vous aurez aussi, sur du pilotage de projet. des projets qui peuvent être de petite taille et comme de grande taille, le projet Écrit Plus. Le CEMU, donc pour revenir au CEMU, donc c'est un service commun, il a connu une très forte évolution. C'est le nouveau nom du centre de téléenseignement universitaire qui existe depuis assez longtemps, depuis 10 ans. Donc ça s'appelle le CEMU depuis 11 ans. Il a évolué un petit peu dans ses missions. Au début, c'était le centre de téléenseignement. Donc mes collègues pourront vous en parler. Vous avez deux collègues du CEMU qui sont présents ici et qui font partie des techniciens, vidéastes et preneurs de son. Au début, c'était du téléenseignement, donc la diffusion de format papier par la poste aux enseignants qui ne pouvaient pas se déplacer à l'université, qui avaient choisi des formations à distance. Ça a évolué, maintenant il y a des plateformes, ça va être un peu l'objet aussi de notre discussion, c'est vous présenter les outils numériques et comment ça a impacté la pratique pédagogique. Donc, depuis 10 ans, ça s'appelle le CEMU, il n'est plus présent sur le campus 1, il est présent sur le campus 3 à IF, et il a vocation à revenir sur le campus 1 dans 2 à 3 ans, dans le bâtiment B qui est en face de ce bâtiment. Donc les missions de ce service sont de l'ingénierie de formation à distance, mission qu'on a depuis très longtemps avec le CTEU, et puis l'ingénierie technopédagogique, l'impact de l'utilisation des plateformes dans les cours, ainsi que l'accompagnement et la formation à la pédagogie. Donc ça, c'est une nouvelle mission du CEMU depuis 2 ans, qui va être d'aider tous nos collègues enseignants à justement s'affranchir de la technique. Nous, on va être là pour les accompagner et puis voir quelles pratiques pédagogiques ils peuvent mettre en place avec ces outils numériques, sachant qu'aujourd'hui, vous êtes une génération qui a une utilisation du numérique que nous n'avions pas il y a 20 ans, vu que ça n'existait pas. Dans un contexte plus large, donc je vais élargir petit à petit, je suis parti de moi, ma place, le CEMU, je vais essayer de ne pas me déplacer trop du micro, excusez-moi. Dans un contexte plus large, en fait, ça s'inscrit dans le projet d'établissement. C'est un projet qui est en cours actuellement. L'axe 2 du projet, les mots forts de l'axe 2, c'est innovante, numérique et décloisonnée. Dans ce projet-là, vous voyez le petit camembert, vous avez une partie verte qui est déjà faite, partie jaune, ce sont les projets en cours, et la partie rouge, c'est des projets, des actions qui ne sont pas encore commencées. Donc vous voyez que l'université a un plan stratégique qui vise justement la visée, c'est de rendre l'université innovante, numérique et décloisonnée. Et pour ceci, ils se servent du CEMU. Le CEMU est un acteur important dans cet axe-là pour l'approche programme, l'approche par compétence. J'y reviendrai si vous me questionnez par la suite dessus. L'hybridation, la ludification et la gamification. Donc, ce sont des missions qui seront accrochées. C'est la troisième mission du CEMU qui vient d'être accrochée. C'est que nous soyons experts sur ces trois axes et que nous puissions accompagner tous nos collègues enseignants sur ces axes. Je vais élargir encore un petit peu et on va prendre un peu de recul dans le temps. Vous avez un premier livre blanc, Enseigner et apprendre, vers une société cognitive, qui a été édité en 1995 et qui pose déjà les bases de ce qui est entré aujourd'hui dans le projet d'établissement de l'université. Ce document-là, il a une déclinaison plus récente d'il y a 2-3 ans et un autre rapport vient d'être fait récemment, qui s'appelle « Vers la société apprenante », qui a été rédigé par François Taddeï, qui travaille au CRI, Centre de recherche interdisciplinaire à Paris. Là, je vous invite soit à les consulter, les faire courir, les feuilleter. Vous pouvez aussi trouver pas mal d'interviews de François Taddeï, justement, sur ce rapport qu'il a présenté. Je vais vous lire un extrait que j'ai choisi de ce document, qui est en préambule. Inventer l'éducation supérieure du 21e siècle suppose de passer à une pédagogie active, intégrant les apports du numérique et appuyée sur la recherche, qui pourrait bénéficier d'un grand programme de recherche sur la société apprenante. Je vais revenir sur cette notion de société apprenante, d'une parenthèse également. Donc, la transformation du rapport au savoir dans l'ère numérique implique des évolutions importantes dans la manière Tout ceci suppose que le système devienne plus agile pour favoriser les expérimentations et l'innovation. Vous voyez, c'est un contexte et un constat qui a été fait, c'est que le rapport au savoir avec l'acquisition, avec le big data, les hyperbibliothèques, font que le rapport au savoir a changé et l'université doit aussi changer ses pratiques en prenant conscience de ce changement. Est-ce que vous avez des questions? Là, je vais changer. Vous allez voir les hauts des diapos pour le diaporama que je fournirai après les séances. Ont des couleurs différentes. Donc là, la présentation du contexte était avec des diapos bleus. On va changer un peu de chapitre. Vous allez voir, ça va changer de couleur. Donc, on va faire une petite pause. Est-ce que vous avez déjà des questions par rapport à ces trois informations-là? Est-ce que vous voulez que je revienne sur un point ou pas? Oui.
Le CMU, en fait, c'est un centre qui permet d'aider les enseignants au numérique.
Oui. Alors, ça va aider les enseignants qui nous sollicitent. Ça fait partie des missions. On n'en fait pas que ça. Hein. Il y a beaucoup d'autres missions, ce que j'ai rappelé juste avant. Mais la partie accompagnement et formation à la pédagogie, il y a aussi la formation à des outils numériques, à l'utilisation d'outils numériques. La semaine prochaine, vous allez avoir une intervenante qui est Maude Pouradier, qui va utiliser WooClap. C'est un outil numérique qu'elle a pris en main suite à nos conseils. On lui a proposé une solution et elle va interagir avec vous, peut-être plus facilement que moi là en ce moment, avec un outil numérique. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, le terme société apprenante, si on refait un peu l'histoire, et ça, il faut vous rapprocher des cours de sciences de l'éducation. Dans l'histoire, en fait, on est passé d'une société éducative à une société cognitive et maintenant à une société apprenante. Je vais avoir une parenthèse un peu plus loin sur ce qu'on appelle l'attitude d'apprenance. Et si on reprend, en fait, dans ce... Du coup, je vous invite plus particulièrement à lire ce livre blanc. Dedans, vous allez retrouver les chiffres exacts, mais à savoir qu'une grande majorité des métiers qui sont exercés aujourd'hui, du fait de la transformation numérique, ne vont plus être exercés. Une grande majorité ne vont plus être exercés dans 10-20 ans. Donc en fait, ça pose question de la formation que vous avez actuellement. Est-ce que les bagages que vous allez acquérir vont vous permettre d'avoir un métier tout au long de votre vie ? Je reviens à ceci. Vous voyez que moi, à un moment, je me suis trouvé un peu désarmé pour accompagner au changement. J'ai suivi une formation pour pouvoir changer ma mission. Ah, j'ai changé de mission, du coup. Mais ça revient à de la transformation numérique et c'était vraiment l'impact du numérique qui a fait ça. Et c'est un peu le développement d'une société apprenante, c'est-à-dire une société qui, à l'aide de toutes les connaissances qu'elle va pouvoir récupérer, comme on a dit dans l'open data, grâce à des intelligences artificielles, grâce à ce qu'on appelle l'hyperbibliothèque, le web. Toutes ces connaissances-là, comment on se les acquiert pour pouvoir récupérer et développer des compétences suffisantes pour continuer dans la société, avoir un travail, exercer ces compétences-là. Est-ce que ça vous va comme réponse? Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors justement, ça va peut-être répondre un peu... On va faire une première parenthèse sur l'histoire des TIS. Est-ce que vous savez qui a la définition des TIS? Ne regardez pas sur vos ordinateurs.
J'ai pas du tout la définition, on avait des cours de TIS, et je ne sais même pas le dire véritablement, parce que nous, on enseignait des outils autour de la littérature et autour en TIS, en fait, par le biais de...
Ouais, je ne sais pas, tu veux peut-être que je répète, Thierry? Donc en fait, là, il y a une réflexion comme quoi vous avez des enseignements en TIS. Tu es en L2, L3
En master.
Donc tu as eu des enseignements en TIS, des intitulés TIS dans ta formation, mais en fait, tu ne saurais pas dire aujourd'hui vraiment ce que représente ce terme. Est-ce que d'autres personnes pourraient... Oui.
Alors, il me semble que c'est technique de l'information et de la communication. Après, pour le E...
Voilà. Donc c'est bien ça, c'est les techniques d'information et de communication. donc qui ont techniques qui ont été fortement bousculées justement avec l'arrivée du numérique, l'arrivée du web, dont M. Lecronier a beaucoup parlé, je pense, il y a 15 jours. Le E, c'est pour enseignement. Ce sont les techniques d'information et de communication pour l'enseignement. Donc en fait, au fil de l'histoire, au fil du temps, ces apports de mécanisation, de numérique, ont fait que, au tout début, l'industrialisation, on avait, du moins, il y avait des représentations, ce que vous allez retrouver sur la partie, cette partie-là. Je ne sais pas, est-ce que ça vous interpelle ou pas? Je ne sais pas exactement de quelle époque date cette illustration, mais c'était comment on imaginait l'an 2000, c'est-à-dire un enseignant mettant dans une machine des savoirs et des élèves. Alors on ne sait pas trop s'ils écoutent ou s'ils sont directement branchés avec des électrodes, je ne sais pas. Voilà. Et puis forcément toujours des personnes au labeur qui étaient là pour continuer un peu à faire tourner la machine. Non. Alors j'avais une autre illustration que je n'ai pas laissée. C'était une illustration dans le métro de personnes toutes branchées en fait avec un bornier sur lequel était marqué philosophie, histoire, français. Et les personnes se branchaient avec un casque dessus pour écouter de la philosophie. Et imaginez l'enseignement comme ça, dans le métro, on capte des choses. Et c'est vrai que je trouve que le parallèle aujourd'hui, si on prenait une photo dans un bus, dans un transport commun, vous êtes tous avec des casques. Beaucoup sont avec des casques. On profite de ce moment-là pour faire quelque chose. Est-ce qu'on en profite pour apprendre? Est-ce qu'on n'apprend pas du tout? Ou est-ce qu'on apprend quand même des choses? Voilà. Ça fait appel à ce qu'on appelle la formation informelle ou non formelle. Est-ce que ce n'est pas une forme détournée de cette utopie? On dit, alors, c'est pas possible, mais est-ce que c'est vraiment très loin? Puis à côté, voilà, je vous montre une personne isolée devant quelque chose qui ressemble en fait à un cours qui est donné comme si elle était en présentiel. En fait, elle a une feuille et des exercices à faire. Donc en fait, au fil et à mesure du temps, on est passé à ce qu'on appelle le drill and practice, c'est-à-dire des bases d'exercices. L'ordinateur a servi à fournir des exercices autocorrigés. Ces exercices-là, en fait, c'était l'enseignant qui choisissait quelle batterie d'exercices vous aviez à passer. Le premier apport du numérique était ça. Après, ça a été de l'enseignement programmé. Ça a été la phase où, en fait, avec un ordinateur, ça se rapprochait de l'EAO, c'est-à-dire que vous aviez, vous voulez apprendre à faire ça, donc il faut faire ça, 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 et ça vous donnait les contenus, les ressources pour le faire. L'enseignement assisté, il commençait à prendre en compte les retours, vos retours d'expérience, c'est-à-dire vos erreurs. Si vous aviez fait des erreurs, il vous renvoyait sur des ressources. Il y avait une scénarisation qui était un peu faite. Et tout ça était un peu mécanisé. On vous mettait devant un ordinateur et vous faisiez ça. Et puis, il y a eu quelque chose dans les années 80, avant les années 90, l'arrivée du monde du logo, où on s'est aperçu que pour apprendre des concepts, est-ce que le logo... Alors, ce n'est pas les Legos. Oui. Le AO, c'est l'enseignement assisté par ordinateur. Pardon. Il y a la programmation assistée par ordinateur. Donc pour l'automobile se sert de PAO, d'exercice de PAO, où ils vont modéliser avant. Est-ce que le monde du logo parle à quelqu'un? Le logo. Donc le logo, c'est un langage de programmation qui est très très simple, avec des commandes en fait qui sont des lettres, des séquences de deux lettres, et qui permettait en fait de dessiner des choses. Ça permettait de manipuler l'ordinateur et ne pas subir ce qu'il nous donnait, mais de commencer à le simuler, à regarder comment ça fonctionnait. Et ça a permis en fait d'amener des compétences d'algorithmique, des compétences pour les informaticiens, de pouvoir simuler avec une machine et que ce soit pas, qu'on ne soit pas juste receveur, mais pouvoir interférer, interagir avec la machine. Donc ça a été quelque chose de très... disruptif par rapport à l'EAO. Et la simulation, dire voilà, pour qu'une personne puisse faire quelque chose, arriver à faire en sorte qu'elle le simule une première fois, qu'elle soit dans un univers sécurisé, non impactant physiquement pour elle, pour pouvoir lui faire pratiquer plusieurs fois. C'est ce qui fait que vous avez cette simulation-là est rentrée dans le programme des infirmières, où en fait il y a beaucoup d'actes qui doivent être faits une première fois en simulation avant un patient réel. Donc c'est quelque chose qui est rentré dans l'enseignement pour justement des problèmes d'intégrité physique. Puis est arrivé le multimédia. Le multimédia, donc le fait de pouvoir, grâce à un ordinateur, remettre de l'image, du son, du texte, des liens, toutes ces choses-là dans une seule capsule. Ce qu'on appelle le multimédia. C'est-à-dire réincarner, ramener quelque chose de vivant dans des supports numériques. La dernière étape donc, pour les TIS, c'est l'hyperbibliothèque. Ce que vous allez beaucoup travailler, je pense, vous, tous ceux qui sont en humanité numérique, travailler avec toute cette base de données numériques qui croît énormément. La quantité de données numériques est énorme. Je ne peux pas vous donner les chiffres exacts, ça, je ne suis pas expert en chiffres exacts, et puis ce sera un chiffre arrondi, mais à savoir que cette quantité-là double tous les 10 ans. C'est-à-dire que la quantité de savoir qui est pour l'instant stockée numériquement, et je ne pense pas que vous puissiez appréhender en fait cette taille-là, savoir que de toute façon, dans 10 ans, elle sera double. Il y aura encore plus de données. Donc l'hyperbibliothèque, et comment on l'utilise, qu'est-ce qu'on fait de cette hyperbibliothèque, comment on la traite, et comment on peut être aidé par des objets pour la traiter. Voilà pour cette parenthèse. Je n'irai pas plus loin sur les fiches grises. On ira plus loin sur les autres sujets. Bien, au niveau du CMU, nous avons des outils justement, des interfaces avec les étudiants pour les enseignements. On a un outil qui est e-campus. Alors j'insiste parce que c'est quelque chose, voilà, vous qui êtes en L1, souvent vous faites la confusion. On parle de Moodle et on parle d'e-campus. Moodle, c'est un moteur de plateforme qui est gratuit, qui est libre, qui est développé par des centaines de milliers de personnes dans le monde, qui crée une interface qu'on appelle un LMS, une interface web, pour gérer du contenu à vocation d'apprentissage. Cette plateforme-là, nous, on s'en sert pour héberger notre plateforme e-campus. C'est le nom qu'on a donné à la plateforme qui est sur un moteur qui s'appelle Moodle. Il n'y a pas que ce moteur-là, il y a d'autres moteurs qui existent. Le moteur de la plateforme qu'on a choisi pour l'Université de Caen est Moodle. Ça ne nous empêche pas d'être vigilants à regarder si d'autres moteurs peuvent être un moment plus performants ou aller plus loin et regarder, les expérimenter, innover avant que ce soit installé plus largement au sein de l'université. Donc j'imagine que vous avez tous déjà vu e-campus. Voilà à quoi ça ressemble. Et pour ceux qui étaient là l'année dernière, ça a changé un petit peu. On est passé à une nouvelle version. On a une ergonomie normalement qui est plus accessible. Normalement. Là, le souhait, donc, par rapport à cette ergonomie de plateforme, le souhait, ça a été de consulter les utilisateurs l'année dernière pour voir quelle évolution ils attendaient. C'est le résultat cette année de cette évolution de ce qu'on appelle du UX design, de retour utilisateur pour pouvoir designer une plateforme. Donc, ça fait partie aussi de notre travail avec les ingénieurs plateforme. Et voilà le résultat. Ça ne va pas correspondre à tout le monde, mais ça va permettre de faire différents usages. Vous allez pouvoir rentrer des paramètres qui vont se retrouver à chaque fois que vous allez retourner sur la plateforme et pas avoir à reparamétrer tout. Donc ça permet ce genre de choses. À savoir que si ça vous gêne, vous avez... comment s'appelle le petit truc gris foncé dans la case grise là-haut? Est-ce que vous avez un nom, vous, étudiant? J'ai entendu que... Non. Donc voilà, on a l'habitude de l'appeler le burger. C'est un empilement, voilà. Donc quand vous avez, si vous ouvrez un ticket d'assistance et qu'on vous demande de déplier le burger, c'est ça. Vous appuyez sur le burger. Vous avez ça aussi sur vos applications mobiles pour arriver au menu. Donc je ne sais pas si c'est le bon terme, mais apparemment vous n'avez pas de terme pour ça. Donc voilà celui que nous, on utilise, le burger. Voilà pour e-campus. On utilise également une autre plateforme pour d'autres types de cours. A savoir que cette plateforme-là est utilisée pour les cours en présentiel, pour les cours également à distance. L'université dispense pas des licences humanité, mais des licences licence de lettres, licence de sociologie, licence d'histoire, licence d'anglais, de sciences du langage et quelques masters. Il y a aussi beaucoup de formes. On va les voir de toute façon juste après. Je vous les énumère, mais on va les voir après. On utilise également une autre plateforme qui s'appelle la plateforme FunMook. Qui peut me définir ce que c'est l'acronyme ? C'est un acronyme. C'est deux acronymes, en fait. Hein. Ce n'est pas juste que c'est sympa. Hein. C'est deux acronymes. Donc, FUN pour France Université Numérique et MOOC. Voilà, c'est Massive Online Open Course. Ça veut dire des cours ouverts, en ligne, massifs. Massifs, il y a une vingtaine d'années qu'il y a des formats de cours en ce format-là, MOOC. Les MOOC qui ont les mieux marché aux États-Unis, c'était jusqu'à 150 000 utilisateurs sur ces cours. Donc ça permet de faire des cours avec un amphi de 150 000 places. À Caen, on a, je vous parlerai plus particulièrement d'un MOOC qui fait partie du projet CRIPLUS. Après, on arrive à des sessions qui ont entre 10 et 20 000 personnes dessus, 10 à 20 000 apprenants sur ces cours-là. Et on utilise une plateforme. La France regroupe tous ces MOOC-là. Vous voyez qu'il y a énormément de MOOC disponibles. Là, vous avez des chiffres. Vous avez 71 MOOC qui vont bientôt démarrer. Le format du MOOC, c'est des séquences d'apprentissage qui sont entre 3 et 6-8 semaines, avec un rythme qui ne va pas forcément vous correspondre à vous, étudiants, mais qui peut être accompagné, ça je vous préciserai après, qui va être compatible avec de la formation, avec un travail à côté, en fait. Si vous travaillez à côté, c'est un effort qui est estimé généralement entre 1 à 4 heures par semaine de travaux sur, je vous ai dit, 3 à 8 semaines. Donc c'est un effort qui peut s'absorber avec une vie professionnelle. Et donc c'est un format de cours assez spécifique, assez restreint, et qui fonctionne avec certains publics, qui fonctionne assez bien. Donc vous en avez 71 qui vont ouvrir prochainement. Et vous avez en ce moment 144 MOOC qui en sont en train de se dérouler. Il y a beaucoup de MOOC qui ouvrent en septembre en même temps. Donc on utilise une plateforme qui s'appelle OpenEDX. Open, c'est quelque chose. J'ai pas regardé entièrement la conférence de M. Locronier, mais je ne sais pas s'il a parlé des formats ouverts, les formats open. Donc le format open veut dire que c'est du code informatique qui est passé dans le domaine, on va dire le domaine public, et qui est améliorable par des personnes. Voilà, vous avez des compétences en informatique, vous pouvez aller voir le code et dire, bah tiens, on peut améliorer ça et l'améliorer petit à petit, ce qu'on appelle le format ouvert, open. Donc il y a un format fermé qui est payant, une plateforme qui s'appelle EDX, et il y a un format ouvert depuis une dizaine d'années, moins depuis 5-6 ans, 2012 je crois. Avant c'était payant pour revoir cette plateforme-là, pour avoir ce code-là, et aujourd'hui il y a toujours le format payant pour certaines entreprises, et puis il y a un format ouvert qui est largement utilisé par les systèmes éducatifs, dont la France, avec ce groupement d'intérêt public qui est FunMook. Donc vous voyez, le format est un peu différent par rapport à eCampus. Vous avez une structure qui est toujours à peu près la même. Vous avez des semaines, un découpage par semaine, quelques activités par semaine, et dans chacune des activités, à chaque fois, un texte, une capsule vidéo, 6 à 10 minutes, et des tests, des quiz automatiques. C'est que dans l'automatique, vu qu'il peut y avoir jusqu'à 20 000 personnes dessus, donc c'est que de la réponse automatique. On va refaire une parenthèse. Est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions, je passe. Si, pardon.
L'acronyme de FUN, c'était quoi ? L'acronyme de FUN.
France Université Numérique. Oui, l'acronyme de FUN. Et Massive Open Online Course. Là, on va faire. Je vais juste vous passer un teaser. L'objet, là, c'est déjà, si vous voulez faire ce MOOC en parallèle, vous pouvez le faire. Il y en a certains, peut-être, où on vous l'a imposé, où on vous a dit suivez ces cours-là et vous aurez un accompagnement présentiel. Et puis aussi, il est là pour illustrer un peu le travail que je fais au quotidien avec mes collègues de médiatisation de ressources, de captation vidéo, d'amener du graphisme, de l'image et du son, de la voix. Alors, je vais être obligé de stopper ça.
Vous l'aurez sans doute remarqué, lorsqu'il s'agit de faire bonne impression, il convient de bien soigner son écrit. Aussi, mieux vaut être muni du précieux sésame. L'orthographe française est si riche qu'il est parfois difficile de s'y retrouver. Pour lever les malentendus, il est temps de faire le point. Si vous hésitez sur la conjugaison, les subtilités des accords, les doublements de consonnes, les accents circonflexes, les traits d'union, n'hésitez plus et suivez le MOOC « Renforcer ses compétences orthographiques ».
Ce MOOC, il va porter sur les règles d'orthographe. Ces règles ne sont pas des contraintes. Elles nous aident, au contraire, le plus souvent, à résoudre des difficultés. C'est la raison pour laquelle on va rappeler l'essentiel des règles qui permettent à la langue, effectivement, d'être cohérente, rationnelle. On va s'attarder, au fond, sur les fautes les plus récurrentes, les plus fréquentes, sur les difficultés, finalement, statistiquement, les plus importantes. Se concentrer, au fond, finalement, sur l'usage quotidien de la langue et les fautes qui sont régulièrement commises dans un certain nombre de messages qu'on est amené à transmettre et, d'une manière générale, dans la communication sociale écrite.
Tout au long du MOOC, retrouvez tous les outils nécessaires pour ancrer en mémoire les concepts abordés et échanger avec les autres apprenants et l'équipe pédagogique. Sans oublier notre grand rendez-vous, la fameuse dictée avec évaluation collaborative.
Je vous mets au défi, précisément, d'arriver à avoir 20 sur 20 à cette dictée. Et à partir de là, on pourra dire que vous avez consolidé votre maîtrise de l'orthographe.
N'hésitez plus et suivez le MOOC « Renforcer ses compétences orthographiques ». Inscription dès maintenant sur fun-mooc.fr.
Alors, à savoir que... La troisième session vient de commencer. Je crois qu'ils sont à peu près 12 000 à le suivre. Pour certains parcours de L1, ça a été imposé pour la remédiation orthographique. Donc, ils suivent une semaine de formation en ligne et ils ont un accompagnement, ce qu'on appelle l'hybridation. Ils vont avoir un accompagnement pendant 1 à 2 heures avec un tuteur qui va reprendre avec eux les exercices pour une correction moins systématique, automatisée, avec retour sur les règles. Donc, voilà. Ce MOOC-là, donc, c'est un outil d'université qui va servir à beaucoup plus de personnes parce que ce n'est pas 8 000 étudiants de l'université. La première session, il y avait 27 000 personnes. Donc, ces 27 000 personnes-là n'étaient pas tous de l'université. Donc, c'est ouvert au monde entier. Qu'est-ce que je voulais vous dire là-dessus? Voilà, vous pouvez avoir un accompagnement, du moins, une formation qui se fait entièrement à distance, format MOOC classique, et puis un accompagnement présentiel pour avoir quelque chose d'hybride. On propose aussi ça. Ces ressources-là sont aussi disponibles sur les campus pour des formations entièrement présentielles. Les trois formats existent sur cette ressource-là. Vous allez pu voir, mais on va y revenir, vous allez pu voir qu'il y avait de la vidéo, il y avait des animations. Donc ça fait partie des compétences qu'on peut développer au CEMU à la demande d'enseignants. Là, l'enseignant porteur, je pense que vous l'avez reconnu. Donc il portait cette formation-là, il avait ce souhait-là de pouvoir hybrider, d'avoir des ressources qu'il fait une fois et qu'il puisse réutiliser X fois. Et on l'a accompagné, on a trouvé un financement. Et c'est ce que je vais vous détailler maintenant, en fait, comment on gère un projet avec un enseignant. Pour finir, j'avais autre chose à vous dire sur la fin. Oui, à la fin, on vous propose la fameuse dictée. Savoir qu'au départ, je pense que la dictée était un jeu. C'était se challenger entre personnes, entre étudiants. Tiens, on va vous challenger, on va regarder celui qui fait le moins de fautes. Un peu comme des fois, maintenant, vous le challengez sur Mario, il en a parlé, ça. Mario à celui qui va faire le meilleur score. Donc, ça demande à être vigilant, quand on fait de la gamification, à avoir quelque chose qui doit rester un jeu. Aujourd'hui, je ne pense pas que si on vous dit, jeudi soir, on se fait un petit jeu, je vous fais une dictée. Voilà, il y a ce rapport-là avec le jeu, l'institutionnalisation du jeu qui fait que on peut perdre des fois l'intérêt d'un jeu. Et ça, vous aurez d'autres intervenants en CMU qui pourront vous parler plus précisément du jeu si besoin. Donc, je vais reprendre ma présentation. Bien. Donc maintenant, on va arriver en fait au vif du sujet. Je pensais y être déjà depuis très longtemps, donc c'est bien. L'ingénierie de formation, en fait, ça va être, vous avez une définition AFNOR, ça va être en fait d'analyser le besoin, partir et rédiger un cahier des charges. Voilà, vous avez un enseignant qui a un besoin, une difficulté, qui a une demande. On va analyser cette demande-là, on va regarder vers quel public est visé. Et puis on va le concevoir, le réaliser, le filmer, s'il y a besoin de filmer, de prendre du son, de mettre des animations. Et puis, quelque chose qu'on fait aussi à chaque fois, et qui concerne vraiment l'ingénieur pédagogique, c'est l'évaluation du dispositif. Il y a l'évaluation des apprenants pour vérifier leurs compétences, mais aussi évaluer si ce qu'on a fait est vraiment la réponse adéquate pour une formation. Donc l'ingénierie pédagogique désigne toute méthode de conception et de construction des systèmes permettant d'échanger, de partager et d'acquérir des informations dans le but de les transformer en connaissances, donc d'apprendre. Donc ça, c'est une définition qui a été donnée par Gilles Paquette. Et l'ingénierie pédagogique va consister à ça, concevoir, réaliser, évaluer. Vous aurez le diaporama. Vous n'êtes pas obligé de trop taper. Pour cette conception-là, il m'a semblé important de vous montrer qu'en fait, on ne part pas comme ça. On ne va pas se dire « Ah, tiens, il a une idée, comment on fait ?» Voilà, on a un modèle, des modèles d'ingénierie. Voilà, il y a un modèle très célèbre qui est le modèle en cascade qui est ADDI, où on fait d'abord une analyse, une conception, un développement, une implémentation et une évaluation. Ce modèle a évolué un peu dans le temps. Il y a un autre modèle qui s'appelle SAM, qui est un peu plus complexe, où vous avez des phases de préparation, des phases de conception itérative, c'est-à-dire qu'on va tester le produit, on va tester ce que l'on fait petit à petit avec des utilisateurs, et puis des phases de développement itératif également. Ça, c'est une méthode, un modèle qui est tiré en fait d'un modèle de développement logiciel qui s'appelle Scrum, une méthode agile. Je parlerai un petit peu d'agilité après. Donc il y a plein de modèles, de méthodes qui permettent d'avoir un cadre qui fait que chaque personne va savoir où elle se situe dans le cadre, dans quelle phase on est et de rien oublier. Au CMU, on a fait évoluer le modèle ADDI, qui nous correspondait plus, mais en lui donnant une forme de SAM, et ce modèle est devenu une méthode. Donc la modèle d'ingénierie ou la méthode d'ingénierie qui est utilisée au CMU, où on a bien la phase d'analyse, la phase de design pédagogique, la phase de production, d'implémentation. Et tout ceci est évalué en permanence. On évalue si notre analyse est cohérente, si nos outils d'analyse sont adéquats. Dans toutes les phases, on a de l'évaluation. D'accord ? Vous voyez, le modèle ADDI, c'est un modèle qui s'appelle ADPI. Et ça, surtout, l'intérêt, c'était surtout de faire se reconnaître les personnes qui travaillaient au CMU. Au CMU, on a une équipe, c'était pas là que je devais le dire, mais on a une équipe pluridisciplinaire. Vous avez vu, il y a des vidéastes, des preneurs de son, on a des ingénieurs plateforme pour e-campus, on a des assistants technopédagogiques, on a des ingénieurs pédagogiques, des chefs de projet, des gestionnaires de financiers et des graphistes. Voilà, et c'est surtout aussi venu par les graphistes. Les graphistes, pour eux, la première appellation ADDI, pour développement ou design, pour eux, le design, c'est du design graphique. Donc, ils ne se retrouvaient pas dans la phase design, ils disent, ben non, nous, on ne doit pas travailler dans la phase design, et en fait, en ingénierie pédagogique, ils travaillent surtout dans la phase production. Ils viennent aussi dans la phase design pour donner des idées, mais il y a vraiment un travail plus conséquent en production. Donc, on a adapté notre modèle pour que tout le monde s'y retrouve et qu'il y ait une cohérence d'équipe. D'où design pédagogique pour le différencier du design. Et on a retiré développement qui était trop marqué pour les ingénieurs plateforme qui sont des informaticiens aussi. Et pour eux, le développement, ce n'est pas de l'implémentation. On va voir ce que c'est que l'implémentation. Ce qui nous donne des procédures, des protocoles que nous suivons en interne, qu'on essaye de suivre en interne, avec, bon, rapidement, hein, vous avez beaucoup de documents que vous voyez très peu en blanc, ce sont les documents qu'on doit sortir à chaque phase, qui vont nous servir de traces pour le projet. Et on retrouve donc un peu ce cycle-là d'analyse, analyse, design, on le retrouve jusqu'au bout. Entre le début du projet, on incube le projet, on analyse, voir s'il a une fin ou pas. Là, on est parti après la phase d'incubation. Je fais encore une fois une parenthèse. Je ne vais pas aller plus loin sur ce sujet-là, sur l'idée des modèles, mais savoir que ce qui va nous intéresser dans le design pédagogique aussi, on se dit pas, tiens, oui, on va faire du jeu, hop, on fait du jeu. On va s'intéresser, on va toujours avoir en référence des modèles, comme ici, c'est celui de Annie Jézégou, qui est le modèle théorique, le cadre qu'il faut respecter quand on fait une formation à distance. Donc, si je reprends les éléments, voilà. La transaction entre les apprenants lors de la pratique d'enquête. Donc, avoir une présence socio-cognitive. Les présences qu'il faut avoir pour que le dispositif mis en place corresponde bien aux étudiants. Que ce soit, voilà. On a différents modèles comme ça. Ça, c'est dans la littérature des sciences de l'éducation. Vous allez retrouver ces modèles. Je vais accélérer un peu sur cette phase-là. Et puis, on y reviendra, si vous voulez, après la pause. L'analyse. Donc l'analyse, je vous ai dit, c'est l'analyse des besoins et l'analyse du public cible. En fonction du public, on a vu que les MOOC, c'était plus approprié à un public qui est déjà en activité, par son format. Donc l'analyse du public va nous permettre de savoir quelle ingénierie on va mettre derrière, quelle plateforme, voilà. Et l'analyse des besoins, des compétences qui vont être à développer. Pour ça, on a des outils, nous, qui... Donc ça, c'est le cadre. Et on va se servir de séances avec les enseignants qui sont porteurs, parce que l'idée ne vient pas de nous. L'ingénierie pédagogique, on vient là pour accompagner un enseignant qui a une demande. Donc, il faut qu'il y ait une équipe. Une équipe, soit un enseignant seul, soit une équipe de plusieurs enseignants qui ont une problématique d'enseignement. Et pour nous, comme outil, on va avoir des cartes d'empathie, des product box qui vont permettre de faciliter l'écriture, en fait, des résultats de ces analyses. On présente ça aussi sous forme de jeu pour essayer d'adhérer à une communauté, d'adhérer à l'équipe. Donc la partie où, en fait, là, tous les modèles théoriques sont en œuvre, ça va être dans le design pédagogique, où il faudra rappeler, définir quels sont les objectifs d'apprentissage, définir le séquençage, la stratégie pédagogique. Est-ce que ça va être du travail collaboratif? Est-ce que ça va être du travail individuel? Est-ce que ça va être de la simulation? Toutes ces stratégies. Les modalités de formation, je vous ai dit tout à l'heure. Est-ce qu'on passe sur un MOOC? Est-ce qu'on reste que sur l'hybride? Est-ce qu'on fait ça en présentiel? Et les stratégies d'évaluation. En cherchant à faire en sorte qu'on ait quelque chose qui réponde aussi à un autre cadre qui nous est cher, c'est l'alignement pédagogique. C'est-à-dire que faire en sorte que l'évaluation finale corresponde bien aux activités qui étaient données et qui visent bien la compétence recherchée. C'est dommage d'avoir, en fait, par exemple, une formation qui ne se déroule que sous forme de TP pratique de biologie et qui se termine par un quiz. Quelqu'un qui va être très bon à la pratique pédagogique n'est pas forcément facilement testable. Ces compétences-là ne sont pas forcément testables avec un QCM. Je n'ai pas dit que ce n'est pas impossible, mais voilà, il y a une vigilance à avoir entre est-ce qu'on veut faire des personnes, est-ce que les compétences recherchées, c'est faire en sorte qu'ils sachent bien manipuler? Ou est-ce que la compétence recherchée, c'est est-ce qu'ils connaissent bien et qu'ils soient plus théoriciens que praticiens? Donc entre les objectifs, la pratique qui est faite pendant la formation et l'évaluation, il faut qu'il y ait une cohérence et un alignement. Donc pour ça aussi, on se sert d'outils. On a un jeu de cartes avec 108 cartes dedans qui présente les différentes stratégies, les différentes modalités. Voilà. Et en jouant ces cartes-là, on arrive à faire émerger une cohésion d'équipe sur le dispositif qui sera mis en place. La partie production, donc c'est là où en fait toutes les équipes vont être sollicitées au CMU. Donc l'équipe vidéo, l'équipe graphiste, le motion designer, le game designer si besoin, les assistantes technopédagogiques, les ingénieurs plateforme, j'essaie d'en oublier aucun. En sachant que dans notre structure, voilà, on a un plateau vidéo, on a un plateau radio. Et nous avons aussi des vidéomatons et nous avons tout type de matériel et logiciel qui permettent la médiatisation des ressources pour cette production. élaboration des contenus, médiatisation, voilà, c'est ça qui est entendu dans médiatisation, c'est en fonction de l'objectif recherché, quel va être le meilleur format pour une ressource. Je continue, on arrive à l'implémentation. Donc là, c'est les plateformes que vous avez vues tout à l'heure, eCampus ou Moodle, avec Fun. Donc c'est avec l'installation de cette plateforme-là. Le travail n'est pas fini. Il y a un travail d'enchaînement. Tout ne doit pas arriver d'un coup. On a une scénarisation qui va se mettre en œuvre. Donc c'est vérifier que tout est bien en œuvre, tout est bien au bon endroit et tout s'ouvre comme il faut pour les apprenants. Donc gestion des activités d'apprenants. Et enfin, l'évaluation. L'évaluation, donc ça va vérifier si les apprentissages sont bien acquis par les apprenants. Vérifier s'il n'y a pas eu le comportement des apprenants, est-ce que c'est bien ce qu'on recherchait. Et puis aussi le comportement de l'équipe. Est-ce que l'équipe, par rapport au projet de départ, s'y retrouve avec le projet final. Et puis l'analyse de tout résultat. Savoir si ça a bien été géré par l'équipe, est-ce que l'équipe s'est pas retrouvée en souffrance par moment pour aussi modifier un peu notre ingénierie et donner des fois des contraintes de temps plus grandes pour la production, par exemple, ou d'autres phases. Je vais faire une dernière parenthèse par rapport à ce qui a été demandé tout à l'heure. Et puis, vous aurez une pause. Donc, l'apprenance, c'est une attitude qui a été définie par Philippe Carré en 2005. Donc, c'est un ensemble stable de dispositifs, dispositions affectives, cognitives et conatives. Je vous laisse aller voir vraiment la définition, ce que cachent ces dispositifs, ces dispositions affectives, cognitives et conatives, favorables à l'acte d'apprendre dans toutes les situations formelles ou informelles. On revient à notre couloir, du moins à notre rame de métro avec des informations. De façon expérientielle ou didactique, autodirigée ou non, intentionnelle ou fortuite. Donc c'est quelque chose qu'on essaie de développer au CMU, on essaie de faire en sorte d'être une organisation apprenante, c'est-à-dire mettre en place une attitude pour chacun, pour que chacun puisse apprendre des situations, soit avec de la documentation, soit en expérimentant, et que tout le monde s'y retrouve, et qu'il n'y ait pas de perte, voilà, si quelqu'un repart du CMU, je pense que c'était là que... Oui, je vais vous en parler aussi d'un principe, ce qu'on appelle le principe du bus factor, mais je vais vous en parler un peu après. Voilà, le fait d'apprendre en permanence, d'être dans une organisation apprenante, fait que l'évolution en compétences, les compétences vont évoluer avec la société. La transformation numérique fait que, au sein du service, nous avons des personnes qui vont être en veille sur des sujets et qui vont apporter les compétences aux autres membres du service, soit sous forme didactique, soit sous forme expérientielle. Dit, tiens, voilà, j'ai testé ça, ça marche bien, viens voir. Et nous, après, ça nous monte en compétences pour pouvoir le transférer aux enseignants si besoin, à ceux qui le demandent. Donc là, pareil, je vous invite à aller voir M. Carré, qui était en professeur en sciences d'éducation à Nanterre et qui est maintenant en retraite. Et qui vient vraiment préciser ce que l'attitude de l'apprenance et ce qui est visé dans une société apprenante. On fait une pause ? Pardon. Alors, si vous cherchez Philippe Carré 2005, vous allez tomber sur les textes de l'apprenance. Si vous allez sur la halle ou sur... Voilà. À chaque fois, je vais vous mettre en fait le nom de la personne qui a rédigé et l'année, et vous allez retomber sur les articles. Servez-vous de l'hyperbibliothèque. Non, non. Alors, vous allez retrouver facilement des textes de 10-20 pages. Il n'y a pas tout à lire.
La définition est étonnante, c'est un ensemble stable de dispositions.
On fait une pause et puis on reprend. Donc là, maintenant, on va parler un peu. Voilà. Je vais continuer et après, on va avoir des temps d'échange ensemble. Sur quels outils numériques ou pas numériques nous aident justement pour la gestion de projet dans le métier d'ingénieur pédagogique. On a du coup à gérer des projets, comme vous avez vu, et on va se servir de cet outil-là qui va nous permettre de le gérer à plusieurs. Vous voyez bien que l'ingénierie pédagogique, c'est jamais tout seul. Il y a toujours les enseignants, il y a des acteurs, il y a des personnes qui vont être là à certains moments. Donc tout ceci, nous, on le trace dans un logiciel qui s'appelle RhineMine, qui a été fourni par la DSI, qui est présent dans les labos de recherche aussi pour leur gestion de projet. Et voilà, c'est un aperçu, c'est pas très ergonomique. On a essayé de chercher un autre outil, mais pour l'instant, c'est le plus efficace que nous avons trouvé. Et il nous permet, en fait, d'avoir une vue et une gestion des tâches différentes en fonction de notre intention de chef de pilote de projet et de gestion de projet. Alors, je vous ai mis quelques illustrations comme ça, je ne vais pas aller très loin, mais voilà, c'est un outil numérique que vous ne connaissez certainement pas, mais qui nous permet d'avancer à plusieurs sur des projets et de garder des traces. Par exemple, ici, nous avons deux fois les mêmes tâches. Les tâches sont en fait à chaque fois une description, ce que vous avez ici. On va décrire. Par exemple, ici, c'était pour la gestion d'un... fabriquer un module dans un, jeu. Pour fabriquer un module dans un jeu, un jeu vidéo, une plateforme. Nous avons un enchaînement. Et ces tâches-là ont différents paramètres. Et dans ces paramètres-là, on peut avoir des vues différentes. L'intérêt, c'est qu'on va pouvoir allier des vues en carte mentale, des vues en Kanban, c'est-à-dire des vues avec une répartition des tâches sous forme de tableau, avec ce qui est nouveau, ce qui est en cours, ce qui est résolu, ce qui est fini. Et puis, voilà, les vues en carte mentale nous permettent de savoir avec un code couleur rapidement ce qui est terminé, ce qui n'est pas terminé. Là, c'était pour distinguer les tâches qui sont pour les graphistes, les tâches pour les développeurs. Et puis, vous avez un état d'avancement différent. Voilà, ici. Ça permet d'avoir, c'est un outil d'aide, un outil visuel d'aide rapide à la décision et au pilotage. Donc là, je voulais présenter surtout pour le panel culture numérique des outils numériques qui sont à disposition du pilotage au projet. Donc l'ensemble des projets du CEMU est présent dedans. Et du coup, vous voyez un peu plus ce que fait ce service d'enseignement, du moins ce centre d'enseignement multimédia universitaire, service commun de l'université. Donc on va piloter des MOOC, la transformation pédagogique, la réponse à la question tout à l'heure, ça fait une des activités, les dispositifs d'information, et puis voilà, d'autres dispositifs plus particuliers. Et j'ai fait on en a parlé tout à l'heure, les dispositifs de formation en lettres, la licence de lettres, licence sciences de l'éduc, c'est juste la partie dispositif FOADFI. Vous avez des masters à l'IAE, vous avez un diplôme, un DU de droit de l'urbanisme, vous avez énormément de formations qui sont pilotées par le CEMU. Et nous avons aussi toute la partie, vous avez les parties MOOC, donc je vous en ai présenté un tout à l'heure, et il y en a plusieurs, en fait, soit terminées à plusieurs sessions, soit en cours d'élaboration. L'intérêt de cet outil-là, en fait, c'est pour, ce que je vous ai dit, la gestion multi-utilisateur. Ça permet d'avoir des traces et faire un peu ce qu'on appelle du management des connaissances. C'est le fait que toutes les informations soient stockées au même endroit. Vous avez, chaque personne dans le service va pouvoir s'appréhender et avoir une acculturation sur tous les projets qui sont à l'intérieur du service. Si cette personne-là passe dans un autre service ou part du service, nous avons quand même toute cette base de données numériques qui nous permet d'avoir... il n'y a pas de perte de transfert. On perd une compétence, mais on a toujours la connaissance accessible. Et puis, c'est aussi pour répondre à un principe dont je vous ai parlé rapidement tout à l'heure, ce qu'on appelle le bus factor. Est-ce que ça parle à quelqu'un, le bus factor ? Donc ça, c'est le bus factor, en fait, c'est plus... C'est laisser suffisamment de traces pour quand le soir, on ne prend pas le bus, mais on se prend le bus. J'ai choqué personne. C'est être dans une démarche où ce que j'ai fait est utile, et si je ne peux plus y accéder, il faut que ce soit utile à quelqu'un d'autre. Ce que j'ai fait n'est pas à refaire. C'est être dans cette démarche-là. Là, moi, j'ai des projets qui sont en cours. Ces projets-là, je les pilote, donc je sais où ils en sont. Mais il ne faut pas qu'il n'y ait que moi qui sache où ils en sont. Il faut qu'il y ait aussi un système ou d'autres personnes qui puissent récupérer ces informations-là et sachent où est le projet, où en est le projet, pour pouvoir le reprendre et pas faire que ça tombe à l'eau et le refaire. Donc ça, c'est plus une philosophie. On ne souhaite pas que des personnes se prennent le bus, mais c'est une attitude de traçage, de laisser des documents, de numériser pour qu'elle soit, pour que toute cette gestion soit facilement retrouvable. C'est un peu le même type de philosophie oui, par rapport, est-ce que c'est la même chose que les logiciels libres? Je répète pour vous. C'est pas exactement ça, le logiciel libre est plus dans une contribution, dans le collaboratif, que tout le monde puisse apporter sa main, apporter quelque chose à un logiciel. Là, c'est pas forcément tous apporter quelque chose, c'est que si une personne ayant en charge un domaine et étant tout seul dessus, quelqu'un puisse prendre le relais sans qu'il y ait trop de pertes. Il y aura forcément de la perte d'informations, mais qu'il n'y ait pas trop de pertes d'informations et que le projet puisse continuer.
Et ça se situe au niveau de
l'entreprise ? C'est une philosophie. C'est plus une philosophie, une attitude de se dire, voilà, je trace ce que j'ai fait, je laisse quelque chose. Nous, on se sert de RideMind pour ça, notre outil de gestion de projet. À chaque fois que je rencontre un enseignant, je fais un compte-rendu de ce qui s'est dit, de ce qu'il y a à faire. Et si, voilà, si le lendemain... sans me prendre le bis, je suis malade, je dois rencontrer l'enseignante, j'avais prévu le rendez-vous, un collègue peut y aller à ma place, il saura, en fait, ce qui était convenu, ce qui doit être apporté, et puis pouvoir continuer. Voilà. Donc c'est plus une attitude, alors je ne sais pas en quoi ça vous concerne, vous qui êtes en lettres, voilà. C'était pour vous sensibiliser à ce genre d'informations qui, en fait, aujourd'hui, contribuent à faire qu'il y a énormément de données stockées dans l'hyperbibliothèque. Une parenthèse, l'agilité. Tout ce processus, bon, c'est une diapo que je ne savais pas trop où mettre, cette parenthèse-là, je ne savais pas où la mettre. Je vais considérer que vous ne connaissez pas ce que c'est que l'agilité. L'agilité, c'est aussi un peu un principe, une philosophie. Et vous avez les principes qui sont énoncés ici, qui sont des principes pour les développeurs de logiciels. Après, on peut les transposer et toujours avoir ces principes-là en tête lorsque nous faisons une action. Et nous, ça nous aide aussi à avoir une approche un peu différente par rapport à tous les modèles que je vous ai montrés et toutes les procédures, les protocoles, la démarche du bus factor, le fait de rentrer des traces et tout ça. C'est toujours rester avec ces principes-là. Les individus et leurs interactions plus que des processus et des outils. Donc l'agilité fait qu'on ne néglige pas. On ne passe pas notre temps de face à un ordinateur à documenter ce qu'on est en train de faire. On passe aussi du temps à échanger entre nous, à chercher de l'expertise, à discuter. On va privilégier les interactions plutôt que de s'envoyer un mail pour dire « remplis cette fiche-là ». Voilà. Un logiciel qui fonctionne plus qu'une documentation exhaustive, on a mis en place eCampus avec une ergonomie un peu nouvelle. On l'a mis en place, on n'a pas documenté outrageusement, on n'a pas mis plein de wikis, plein de tutoriels. On va vous laisser prendre la main dessus, mais parce qu'on a passé plus de temps à faire en sorte que cette ergonomie soit prête et fonctionne au moment où vous en avez besoin. La collaboration avec les clients plus que la négociation contractuelle. Lors des échanges avec les enseignants, on n'a pas de contrat. On n'implige pas les enseignants qui ne veulent pas venir nous voir, qui veulent un accompagnement simple, ou peu importe l'accompagnement. On va être avec eux en collaboration, on ne va pas contractualiser, on n'est pas prescriptif. On va être plus dans la collaboration et faire en sorte que leurs projets réussissent avec nous, si on peut les aider. L'adaptation au changement plus que la suivi d'un plan, voilà, on a un cadre, mais il faut savoir aussi, des fois, bouger du cadre en fonction des projets et se dire, voilà, il y a eu tels événements, et puis on s'adapte, on s'améliore, et on fait en sorte que ce soit dans ce principe-là que nous agissons. Alors, ces principes agiles ont été détournés par, je vais citer et puis je le mettrai dans la bibliographie, Christian Denartig, un enseignant de français en collège, au 6e, 5e, il a transposé ces principes-là à son enseignement de français. Et il a adapté la négociation avec les élèves, il a remis ces termes-là, et il a poussé au maximum les principes de l'agilité au sein de sa classe. Donc, je vous laisserai aller le voir, c'est pas... il pourrait vous faire une conférence également de 2 heures dessus, mais il n'est pas forcément joignable. Et ces principes sont intéressants et nous font revoir des enseignements de façon un peu différente. On va sortir des outils numériques pour vous présenter un outil qui a été mis en place assez récemment, il y a moins de 2 ans, au CEMU. C'est-à-dire que notre outil de gestion de projet, Vu la quantité de projets que nous gérons, nous n'arrivons pas à avoir, même si on a des très grands écrans, une vue globale du projet. On n'arrive à voir que des vues partielles. On arrive à analyser des choses, on peut aller finement dans les choses, mais on n'a que des vues partielles. Du coup, on en est venu à mettre en place un panneau comme ça. Vous voyez qu'assez grand, hein, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la taille d'une brique. Voilà, là, c'est que des briques Lego. Et on a chaque projet qui est représenté avec en tête le nom du projet. Donc voilà la vue globale, et puis je vais m'intéresser à des vues partielles. Vous avez en tête, en fait, les noms des projets. Vous avez un code couleur au-dessus qui est en fait la couleur du chef de projet qui le pilote. Dessous, c'est la couleur en fait de là où est le projet, dans quel dispositif. Est-ce que c'est un projet de l'IAE? Est-ce que c'est un projet en santé? Est-ce que c'est un projet financé grâce à un appel à projet, donc temporaire? Et puis, voilà, nous avons toute la semaine, toute l'année de représenter dessus. Toute l'année est présente. Et ce qui fait qu'on va pouvoir voir les périodes de charge. C'est un indicateur en fait de charge du service. Quand on va avoir de nouveaux projets, on va les positionner dessus en fonction. Je vous donne un exemple. Là, vous avez une partie jaune qui sont en fait les MOOC. Les MOOC sont représentés en jaune. Les MOOC demandent une charge de travail. Donc, si on a un MOOC qui vient dans un projet avec un enseignant actuellement, que l'on le met en place et qu'on le crée, on va choisir une période où en fait, il n'y en a pas. On va les mettre à d'autres moments dans l'année. On va pouvoir y voir une planification annuelle qui sera beaucoup plus rapide que si on retourne dans le logiciel et qu'on essaye d'analyser toutes les traces. Donc ça, c'est un outil d'aide à la décision globale et qui sert aussi d'acculturation au service. Chaque personne dans le service sait à peu près quels projets sont en route, où ça en est, quelle est l'échéance. Et petit à petit, on rajoute des marqueurs dessus et ça se fait en collaboration avec toute l'équipe. C'est un tableau de communication et d'échange. Vous ne m'avez pas posé la question, mais tout au début, en fait, je m'étais représenté avec un petit casque de Lego. En fait, voilà, c'est le personnage que j'ai choisi, ce n'est pas moi, c'est ce personnage-là. Et c'est juste pour montrer que dans les deux projets que je pilote, ces deux-là, donc Écris Plus et puis un autre projet sur lequel j'interviens également en binôme, je suis plus sur ce projet-là. La semaine est marquée par une barre jaune. Hein. Donc cette semaine, je suis plus sur ce projet-là. Ça permet en fait au chef de service de savoir sur quel projet en priorité nous travaillons chaque semaine. Vu qu'il y a beaucoup plus de projets que de personnes qui pilotent de projets. Voilà, c'était pour vous montrer en fait un pendant matériel d'un outil numérique pour la gestion quotidienne, pour la gestion annuelle. Et nous avons aussi notre outil discussion hebdomadaire, où là, c'est un outil qui va servir tous les débuts de semaine pour nous répartir les ressources. Il n'y a pas, il y a plus de 10 chefs de projet. Nous avons deux vidéastes, un motion designer, nous avons un graphiste, deux graphistes. Ils sont représentés en fait par des lignes ici. Et puis les chefs de projet vont dire, cette semaine, moi j'ai besoin d'un graphiste parce que j'ai ce projet-là, j'en ai besoin. Donc il va pouvoir poser sa couleur. Et ça, c'est une négociation qu'on fait toutes les semaines, vu que nous sommes beaucoup à utiliser les mêmes ressources. Donc on se met d'accord sur qui utilise les ressources. Et c'est pareil, c'est un outil de négociation entre nous, de collaboration, pour pouvoir gérer ça avant de laisser des traces numériques de cette discussion. La discussion se fait avec des briques. On vient le lundi matin avec nos briques dans les mains et on essaie de les positionner, dire « moi j'ai ce travail-là ». Et il y a une priorisation qui est faite petit à petit. Voilà, c'était juste pour illustrer un peu une façon de travailler qui est peut-être un peu différente de ce que vous auriez pu voir. Je vais m'arrêter là sur l'ingénierie pédagogique et maintenant je vais vous présenter trois projets différents. Là, j'ai qu'une slide. Trois projets différents, on a déjà parlé de deux projets, pour vous donner aussi un aperçu des tailles de projets et puis de leur intérêt et puis de ce que l'ingénieur pédagogique fait dans ce projet. Donc le premier, vous avez eu un aperçu tout à l'heure avec le teaser, un projet de renforcer ses compétences orthographiques. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était une ressource qui était utilisée à la fois à distance sous format massif, réutilisée en présentiel format hybride, qui peut aussi, ces ressources-là étant mises à disposition sur les campus, elles peuvent être aussi des ressources pour des temps présentiels. C'est un projet qui a mobilisé avec toutes les traces qu'on a mis en œuvre. S'il avait été porté par une seule personne, ça aurait été une personne, multicompétente, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes de compétences différentes qui sont intervenues dessus. Mais voilà, ça représente 5 mois de travail à temps plein pour une personne, de mettre en place un projet comme ça. Ça a demandé plus de temps, et en sachant que par période, ça a mobilisé des fois 3-4 personnes certains jours. Pour les séances de captation, par exemple, quand vous avez vu M. Castille faire le teaser, voilà, pendant une demi-journée, il y avait un preneur de son, un vidéaste, M. Castille, le chef de projet qui était là, donc 4 personnes qui étaient pour ce projet. On n'a pas compté là-dedans, dans les 5 mois, le temps de gestion de projet et le temps de l'enseignant. Tout ce qu'apporte l'enseignant n'est pas compté dans cette gestion. C'est vraiment le travail du CEMU. Et il n'y a pas le travail du pilotage. Donc c'est un projet qui s'inscrit comme ressource dans le projet Écrit Plus que je pilote, qui va être une ressource de formation pour la certification des compétences écrites. Ces compétences-là, qui seront certifiées, j'espère que vous en entendrez parler. Normalement, dans 1 an ou maximum 2 ans, vous devriez, à l'Université de Caen, passer une certification, une évaluation de vos compétences à l'écrit en français grâce à la certification Écrit Plus. Dans le même genre d'idée, alors PIX, c'est le nouveau nom pour les compétences numériques, l'évaluation des compétences numériques. Avant, ça s'appelait le B2I, je pense que ça doit vous parler un peu, le B2I au collège, le C2I. Aujourd'hui, ça ne s'appelle, voilà, il n'y a plus qu'un seul nom, c'est le PIX, qui représente en fait, sur PIX, vous avez c'est une plateforme qui va évaluer et certifier vos compétences numériques. C'est-à-dire des compétences que vous allez avoir développées dans des cours en présentiel. On parlait tout à l'heure de méthodologie ETIS. Dans les méthodologies ETIS, vous avez des compétences numériques qui sont travaillées. Donc cette plateforme-là va permettre de certifier les compétences que vous allez travailler en présentiel. C'est une plateforme distante pour certifier des travaux en présentiel. Je vais vous parler un peu plus, vu qu'on n'a pas parlé beaucoup de ludification, on a parlé beaucoup de jeux. Je vous ai parlé que la dictée, c'était un jeu. Je vous ai dit tout à l'heure ça. Vous avez vu que quand on discute avec les enseignants, on essaie de l'amener à travers un jeu de cartes, on essaie de faire des cartes d'empathie, des produits box, on essaie toujours d'amener quelque chose de ludique. Là, je veux juste vous partager avec vous, en fait, ça va faire un peu une synthèse de tout ce qu'on a vu sur le design pédagogique. Là, c'était un projet d'un enseignant qui a décidé d'introduire un jeu dans son enseignement. Un enseignement, le thème traité, c'était l'histoire des idées. Il en a fait un parcours ludique sous forme de play by forum. En fait, ils ont joué sur un forum. L'objectif, c'était que toutes les semaines, ils fassent une contribution sur un forum en prenant le rôle d'une personne existant en 950 après Jésus-Christ. Donc, elles étaient mises dans un univers et elles devaient rentrer dans ce personnage-là, se documenter suffisamment pour avoir un dialogue cohérent et refléter ce qui se passait dans leur village à l'arrivée du christianisme. Voilà son idée. Et il a décidé de les faire jouer sur un forum. Donc lors du design pédagogique, il a fait le choix de ne pas imposer le jeu à tout le monde. Il y a eu une analyse, si on reprend, voilà, il y a eu une analyse du profil où on s'est dit, du moins, il s'est dit que ça n'allait pas forcément correspondre à chaque étudiant. Chaque étudiant ne vient pas forcément pour jouer quand il veut chercher un apprentissage. Donc il leur a proposé le choix, il s'est adapté, il les a profilés, enfin, profilés, excusez-moi du terme, on coupe. Il ne les a pas profilés, il a regardé quel était leur profil, est-ce qu'ils étaient plutôt joueurs ou pas. Et en fonction de ça, il leur a défini des parcours, soit ils viennent dans le jeu, ils prennent le parcours ludique, soit ils prennent un parcours individualisé, c'est-à-dire un parcours dans lequel il va proposer des ressources un peu plus classiquement, où il y a l'accès à des ressources et des productions qui sont exigées sans rentrer dans l'univers du jeu. Et puis, le devoir terminal, je vais revenir sur une notion dont on a parlé tout à l'heure, qui est l'alignement pédagogique. L'objectif final, c'était la création, du moins, une dissertation. Oui, pardon. Comment il a fait pour... Alors ça, il a à l'aide d'un test, en fait, un test de questions. Il a certaines questions qui permettent de connaître le profil joueur ou pas joueur. Et puis le profil, alors il y a différents profils de joueurs. Je vous enverrai aussi une référence pour cette documentation-là. Il a détaillé en fait ce qu'il a fait. Dans les joueurs, quand quand une personne joue, elle ne va pas rechercher la même chose. Il y a des personnes qui vont jouer pour gagner, il y a des personnes qui vont jouer parce que c'est sympathique d'avoir des relations, d'avoir des échanges avec d'autres personnes, et puis l'univers peut être transportant. Voilà, il y a différents profils de joueurs. Il a un test de profil de ces joueurs-là, et il a vu que des personnes ne rentraient pas dans ces profils, ne cherchaient pas à jouer pour apprendre quelque chose. C'est pour ça qu'il a défini un parcours différent. Si je reviens sur l'alignement pédagogique, l'objectif final, lors de l'analyse, son objectif, c'était qu'il acquiert des connaissances en histoire des idées, dans l'arrivée du christianisme. Comment s'est passée l'arrivée du christianisme ? Voilà, je ne vais pas rentrer en détail dans ses objectifs. Et en sachant que l'évaluation terminale serait une dissertation à l'écrit en ayant une question par rapport à ses connaissances. Donc, il devait développer des compétences d'écriture, de rédaction, en ayant certaines connaissances. Et voilà, son parcours lui a permis, le parcours ludique, le fait de faire ça sur un forum, leur a demandé de faire de la rédaction régulière, courte, pour les amener à la rédaction plus longue, à la fin. Est-ce que ça vous éclaire par rapport à l'alignement ? Voilà. C'est le fait que entre l'objectif final, l'évaluation et les activités qui sont proposées, en fait, on a quelque chose qui sont cohérents. Quelque chose qui est cohérent. Voilà. Donc maintenant, je vais vous proposer quelque chose. Je vais vous proposer quelque chose. Si vous avez une feuille, ce que j'aimerais bien, c'est que chacun prenne une feuille et puis note en fait une question ou une diapo qu'il aimerait revoir individuellement. Individuellement, sur une feuille. Le sujet, parmi toutes les diapos que je vous ai montrées, quel est le thème sur lequel vous aimeriez qu'on insiste ? L'objectif, avant que vous le lanciez, c'est qu'une fois que vous avez choisi votre diapo, individuellement, vous échangez avec sa personne qui est à côté de vous. Pour faire en sorte que sur les deux personnes, il n'y ait qu'une question qui reste, qu'une diapo. Vous négociez entre vous. Après avoir négocié, l'objectif, c'est de négocier avec ceux de votre rangée pour qu'il n'y ait qu'une question par rangée qui redescende. Vous avez 5 minutes. Donc là, maintenant, je vais vous demander au moins d'arriver, du moins sur cette rangée-là, je vais monter et ce qu'il faudrait, c'est que je récupère une feuille par rangée et pas juste celle de la dernière personne, mais que ce soit une négociation entre vous. Faites remonter. Bien, on va reprendre. Ah oui, non, c'est pas une question ça.
Je crois qu'ils ont déjà passé toutes les questions et je vous donne la petite question.
Donc, je ne vais pas avoir le temps de répondre à toutes les questions aujourd'hui, mais en fait, il y a une globalité de questions qui portent sur le même thème. Je vois que dans ce qu'il revient, il y a beaucoup de questions sur en fait cette diapo-là. Cette diapo-là, il y a quelques questions sur cette diapo-là, il y a quelques questions sur l'apprenant, c'est-à-dire celle où j'ai fait des parenthèses. Donc là, pour celle-ci, je vous donnerai des références. Je ne vais pas vous faire un cours des sciences de l'éducation. D'ETIS, l'historique d'ETIS, mais je vous donnerai des références pour ceux que ça intéresse. J'ai des questions aussi sur l'implémentation, ce que c'est que l'implémentation. Donc là, il y a juste le mot implémentation, c'est-à-dire pour revenir... sur cette phase, je vois pas vraiment, alors je ne sais pas qui a posé la question sur l'implémentation, je ne vois pas de quoi ça retourne. En fait, voilà, c'est une phase de développement qui est la phase où tout est en ligne pour les formations à distance, ou même pour les formations présentielles. Ce sont les ressources qui sont sur une plateforme. C'est la gestion des ressources sur la plateforme pendant le temps d'activité. J'ai beaucoup de questions qui viennent sur... Voilà, la plupart des questions, la moitié de vos questions sont sur la gestion de projet. En fait, l'ingénierie pédagogique revient surtout à de la gestion de projet. C'est-à-dire, à partir d'une idée d'un enseignant, à partir de la problématique d'un enseignant, des questions qui sont « mais comment je peux faire pour qu'ils écoutent quand je parle ?» Ou comment, voilà. Ça, c'est une problématique, il y a différents moyens d'y répondre. On n'a pas de solution toute préfaite, c'est un échange avec eux, et après, vraiment analyser quel est le public, analyser quel est l'objectif, quelles sont les compétences qui sont à développer, et on redéroule en fait toute la procédure, tout le cadre qui nous sert de fil conducteur pour la gestion des projets. J'ai une question sur la gestion de projet. Est-ce que c'est arrivé qu'on ait un projet qui soit incomplet? Oui, tous les projets, il y a des fois des projets qui se lancent avec une équipe, où on peut avoir, on est très intéressé par la réussite de ce projet-là, et des projets qui restent à l'étape d'analyse. On n'a pas, on passe pas au design pédagogique parce qu'il n'y a pas, des fois, l'impact de temps, le temps à consacrer au projet qui va faire que le projet ne va pas aboutir, ne va pas aller plus loin. En projet incomplet, ce qu'on peut avoir également, je ne vous en ai pas parlé ici, mais le projet J-Cube, c'est un projet qui était très ambitieux au départ quand il a été financé. Et le financement fait que, voilà, il arrive à échéance à la fin de l'année, tout n'aura pas été développé. Et du coup, on a quelque chose qui est un peu incomplet. Il y a eu une recherche de financement supplémentaire pour pouvoir terminer le projet. Ça fait partie aussi de la mission d'ingénieur pédagogique de pouvoir financer les actions pour des projets qui sont des fois très... je vous ai parlé du projet de MOOC qui a mobilisé une personne pendant 5 mois s'il n'y avait qu'une personne. C'est un projet qui a été assez coûteux. Ce coût-là, soit il est absorbé par l'établissement en fonction de la retombée au niveau des étudiants, soit il est financé par des aides extérieures qui permettent l'enseignement supérieur lance des appels à projets réguliers sur certaines thématiques pour développer les axes du projet d'établissement que vous avez vu. Ces financements-là, faut concourir, faut récupérer une enveloppe et puis mettre à bien les projets. Donc le projet J-Cube je joue et j'apprends, c'était une plateforme de jeu, c'était une plateforme de génération de jeux pour essayer de ludifier un peu plus les quiz. C'est une plateforme qui devait fournir différents types de jeux. Donc, en fait, il n'y a qu'un type de jeu qui va avoir été développé. C'est un jeu qui est financé par l'Europe, des fonds européens, le fonds FEDER. Et il arrive à terme. On n'a pas tout développé. On a cherché d'autres alternatives pour le financement. Ça ne va pas se faire. Donc, ça va peut-être s'arrêter là. Mais ça ne veut pas dire que le projet ne sera pas abouti. Dans la philosophie de l'agilité, on a privilégié quelque chose qui fonctionne, qui n'est pas abouti, mais il fonctionne. Il sera livré. Il est déjà en marche. Il a déjà été testé. On a des retours, par contre, on a priorisé pour qu'à la date butoir, on ait quelque chose qui soit quand même un livrable exécutable. Je vous ai dit, par rapport, il y a eu des questions sur la gestion de projet. Et puis les autres questions, je vais vous donner les références. Je vous dis, je ne vais pas vous faire un cours de sciences de l'éducation. Vous aurez les références si vous voulez aller plus loin et les creuser. Maintenant, j'avais une question aussi sur l'apprenance et sur le fait, une interrogation un peu plus globale, je pense, un peu collective par là, sur quel est l'intérêt de chercher à tout le temps être de plus en plus performant. On ne cherche pas forcément à être de plus en plus performant, mais de faire en sorte que toutes les actions que nous menons, si par moment on est dans une phase où on arrive à un blocage, à un point de blocage, à un mur, de dire de dire aux autres, c'est pas la peine d'aller par là, c'est un mur. C'est pas chercher à être plus performant, c'est chercher à être plus efficient et plus efficace et ne pas amener des projets à être abandonnés parce qu'on sait qu'ils vont arriver dans un mur. Je ne sais pas si ça répond exactement.
C'est bien ce que vous venez de dire. Vous venez de dire, ce n'est pas être plus performant, c'est simplement être plus efficace.
C'est le côté plus efficace dans le sens où je ne pense pas que ce soit utile pour chacun de perdre du temps. Par rapport à la gestion de projet, il y a eu aussi une question sur l'outil Lego. L'outil Lego, c'est un outil qui a été rendu nécessaire. La finalité, c'était d'avoir une acculturation à la gestion de projet. Ce n'est pas arrivé comme ça. Il y a eu un prototypage, voilà. C'est un outil facilitant la gestion de projet, mais ce n'est pas quelque chose transposable forcément à tout projet, ou à toute gestion, ou à toute équipe, ou au moins adaptable, à adapter. Et il n'y a pas qu'un outil. Vous avez vu, il y a deux tableaux, il y a deux outils comme ça. Ça, c'est la planification hebdomadaire moderne et planification annuelle. Après, ça reste que de la planification. Là, l'intérêt, c'était d'avoir quelque chose qui soit adaptable, qui puisse s'adapter facilement, qui soit facilement déplaçable, sans être périssable. Si on avait pris des rubans plastiques ou des fiches, ça s'abîme, on n'aurait pas eu cette souplesse. Voilà. Je pense avoir fait le tour. Si je peux peut-être ajouter ta question par rapport à... J'ai une question en fait sur le parcours individuel. Le parcours individuel ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas de production aussi écrite à faire. Ils avaient des productions écrites à faire pour se préparer à l'examen, dans le principe d'alignement pédagogique, mais ils n'avaient pas à rentrer dans un univers de jeu. Et pour terminer, il y a des personnes dont on a, voilà, ils avaient été repérés comme on leur avait suggéré de ne pas rentrer dans le jeu, étant donné qu'ils n'étaient pas forcément joueurs, ils y sont rentrés quand même et ils ont moins bien réussi que ceux qui étaient sur un parcours classique en ayant fait le choix du parcours classique. Donc il y a quand même, on a évalué aussi ce dispositif-là et les prochaines fois, vraiment insister à ceux qui vont vraiment, qui vont choisir le jeu alors qu'ils ont été détectés comme étant ayant un profil, on va être plus insistant en leur disant on a des preuves, on a des traces comme quoi dans cette voie-là, vous allez vers un échec. Donc, essayez quand même d'aller vers de la réussite. Le côté échec, je ne dis pas que l'échec n'est pas bon, mais on ne cherche pas à voilà. Tu as vu, tu as raté ta première année. Non, on cherche quand même à faire en sorte qu'il y ait une réussite. Et on met tout en œuvre dans ce sens. Et c'est pas... C'est l'efficacité, nous, on cherche le temps. Et cette efficacité, c'est ça, c'est être au bénéfice des étudiants pour que vous ne perdiez pas de temps. Et vous donnez un enseignement, je vais pas le redire, hein, mais efficace. Vas-y. Voilà, merci.